Donc je me présente, Sylvain Montagny, je suis enseignant à l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Et dans un petit groupe de travail, on a un autre groupe de travail que la dira, on a réalisé un certain nombre de ressources pédagogiques, un certain nombre de ressources pédagogiques sur l'IoT d'une façon générale, mais ciblées sur le LoRaWAN. Donc on a écrit deux ouvrages qui sont gratuits et disponibles sur Internet. On a monté une plateforme pédagogique qui est gratuite à titre pédagogique, à titre universitaire. Et on fournit aussi des formations à destination des entreprises. Voilà, donc aujourd'hui, on va présenter ça en trois temps. Enfin, je vais vous présenter ça en trois temps, et puis j'espère qu'il y aura aussi des échanges, des questions, en tout cas des retours d'expérience de votre part. Première partie, une dizaine de minutes sur l'introduction, où j'aimerais qu'on réponde à deux questions. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de données, et quelle est la valeur de cette donnée, et rapidement, quelles sont les solutions qu'on a à notre disposition? Donc ça, ce sera pour la partie introduction. Et puis ensuite, il y aura deux sujets qui vont durer deux fois une petite vingtaine de minutes. Premier sujet qui est un sujet lié à la sécurité. Et la question, parce que je vais poser beaucoup de questions, vous allez voir que je pose beaucoup de questions, vous allez m'aider à y répondre. C'est est-ce qu'on doit laisser à l'utilisateur final le choix de la sécurité et le soin de la sécurité? Et une deuxième partie sur l'interopérabilité, mais plus sur la partie mutualisation de services, mutualisation de réseau. C'est ce qu'on appelle en LoRaWAN et en IoT le roaming. Voilà, donc ça c'est le planning. On commence par l'introduction. Alors plutôt que vous faire la théorie des LPWAN, on va plutôt partir sur un cas d'usage. Et donc c'est un cas d'usage qui m'intéresse particulièrement parce qu'à l'université c'est le sujet chaud actuellement. La prévision du coût du chauffage à l'université c'est de 470 000 euros pour les vingtaines de bâtiments qui se trouvent sur le campus de Technolac à Chambéry. Et donc quand on propose de faire 10% d'économie en rajoutant un petit peu d'intelligence dans le système, on pourrait dire pour certains que c'est super parce que ça économise 200 tonnes de carbone. Ça, si vous arrivez avec cette idée-là et on vous regarde avec des yeux ronds, malgré le fait que ce soit effectivement le sujet le plus noble, tout le monde s'en fout. Mais par contre, si on prend 10% de 500 000, tout de suite, ça choque un petit peu plus. Et encore, on pourrait faire beaucoup mieux. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut savoir déjà qu'est-ce que l'on veut récupérer comme données et qu'est-ce que l'on veut faire. Alors, c'est très simple, un système de chauffage, je le simplifie au maximum, c'est que je prends une valeur de température et je dois piloter des actionneurs. Donc, au final, si on reprend l'historique de la gestion du chauffage de l'université, sans faire très long, la valeur qu'il y avait, la donnée qui avait de la valeur, c'était la donnée de météo. Et on disait très simplement, il fait froid, je chauffe, il fait chaud, je chauffe moins. Alors, comme dans tous les bâtiments publics, il y a des salles qui sont au nord, des salles qui sont au sud, il y a des bâtiments isolés, des bâtiments non isolés. Donc, il y a des salles où il fait 15 degrés, des salles où il fait 25 degrés. Et donc, on se rend compte que si on veut optimiser bâtiment par bâtiment, il faut lancer un projet et dire, bah, je mets des capteurs de température dans chaque bâtiment. Il y a 20 bâtiments, 20 capteurs de température. On fait des saignées dans les murs et on intègre des nouvelles données qui permettent d'avoir la température de chaque bâtiment et des nouvelles données qui permettent de piloter chacun des bâtiments. Ça suffit toujours pas parce qu'il y a toujours des salles qui sont au sud, des salles qui sont au nord, celles qui sont au rez-de-chaussée, celles qui sont à l'étage. Il y en a toujours qui se caillent, il y en a toujours qui en chaud. Et donc, au final, les données qui ont de la valeur, c'est quoi? Ce sont les valeurs de température de chacune des salles. Donc, ce qui représente à peu près 300 salles à l'université juste pour le site de Technolac et des actionneurs individualisés pour chacun des radiateurs, sachant qu'il y a trois radiateurs par salle, ça fait des centaines et des centaines d'actionneurs. On représente donc un flux uplink, des données qui montent au serveur et un flux downlink qui descend vers un actionneur. Et ça, l'IoT est capable de le faire. Et si on regarde ce dont on a besoin de quoi? On a besoin d'un réseau qui est capable de transmettre des données sur des longues distances. Le campus n'est pas très long, mais en termes de longue distance, on parle aussi de pénétrabilité dans les bâtiments, donc ce qu'on appelle communément le deep indoor. Et on a aussi besoin d'avoir des capteurs qui soient très low power. On ne veut pas changer et recharger les batteries sur des rythmes hebdomadaires. Et donc, il faut des capteurs qui puissent durer plusieurs années. Donc, des capteurs qui durent plusieurs années, c'est soit sur pile, en durant 5, 6, 10 ans, soit des capteurs qui sont complètement autonomes. Par exemple, une vanne thermostatique de radiateur, comme j'ai amené ici, qui se recharge avec la chaleur du radiateur. Et ça, c'est ce dont on a besoin, du low power, de la pénétrabilité dans les bâtiments. Et il y a ce que l'on n'a pas besoin dans le cadre de cet exemple-là, c'est par exemple du débit. On envoie des températures, on ne les envoie pas au rythme de 1000 températures par seconde, quand bien même ça ferait juste que 1000 kilooctets par seconde. Et donc, on a besoin de quelques octets de temps en temps. Le capteur de température qui émet ici, si je me souviens bien, il émet une température toutes les 20 minutes. Et l'actionneur qui permettrait de piloter le chauffage, on lui mettrait un programme qui serait capable d'avoir sur plusieurs jours. Éventuellement, on lui donnerait que les consignes pour modifier des valeurs de calendrier dans son programme. Donc ça, c'est typiquement la cible de ce qu'on appelle les LP1. Et dans ces LP1, si on regarde le paysage des LP1 actuellement, on a deux protocoles opérés, donc LTEM et NB-IoT, et deux protocoles qui travaillent dans les bandes libres, Sigfox et LoRaWAN. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur le LoRaWAN, sachant que les cas d'usage ciblés par LoRaWAN, Sigfox et NB-IoT sont assez similaires, malgré qu'ils soient quand même assez différents. LTEM, c'est tout de suite déjà pour des débits qui sont un petit peu plus élevés et avec forcément des consommations qui sont aussi plus élevées, donc moins d'autonomie. Il n'y a pas qu'une seule technologie, il y en a plein et chaque technologie a des cas d'usage bien prédéfinis. Alors vous allez me dire, ici, il manque un acteur principal et peut-être que vous l'avez en tête, c'est quid de la 5G. Donc effectivement, on est tous impatients de savoir ce qu'elle va nous promettre. En tout cas, de savoir si ce qu'elle nous a promis va effectivement arriver. En réalité, la 5G, c'est plein de petits segments. Celui qu'on connaît, c'est la 4G améliorée qu'on a sur notre téléphonie mobile actuellement. Donc, on n'est pas du tout dans le monde des LP1, loin de là. On est dans le monde du haut débit, avec un temps d'accès un petit peu plus rapide. On nous promet de la 5G extrêmement haut débit. Donc ça, c'est ce qu'on aura, je ne sais pas quand, sur la bande des 26 gigas. On aura des débits qui seront très accélérés et des temps d'accès très faibles. Ça, typiquement, ça aura des cas d'usage pour l'IoT, Industrial IoT, tu en parlais tout à l'heure. Et donc, dans les systèmes de contrôle-commande, on a besoin de débits et on a besoin de temps d'accès réduit. Mais on n'est toujours pas dans les LP1. Et ce qu'on attend quand, je ne peux pas vous dire, c'est la dernière phase de la 5G, la Release 17, qui s'appelle NR Lite, avec un nom qui, je trouve, est assez adapté, qui s'appelle REDCap. REDCap pour Reduce Capability ou Reduce Capacity. Et donc, Reduce Capacity, ça veut effectivement dire qu'on retourne dans le monde des LP1 avec des capacités réduites. Il n'y a pas de secret. On ne sait pas faire des choses qui vont vite et qui ne consomment pas. Et donc, on attend. Je ne peux pas vous dire actuellement si ça sera à la hauteur des attentes qu'on pourra en avoir. Conseil que je pourrais donner, et le conseil que je donne tout le temps, c'est n'attendez pas. Sinon, on n'a toujours pas les prémices des 5G privés dans les bandes 26 gigas. On ne sait pas ce qui va vraiment en être. Si on attend la NR Lite et la REDCap, vous aurez probablement laissé passer le business qui ensuite.
Probablement pour nous. Pardon, vas-y.
Non, juste là-dessus, du coup, c'est l'exploitation de la 868 MHz, donc la même bande que Sigfox et LoRa. C'est les protocoles par-dessus qui ne sont pas encore définis?
Si, sur la modulation LoRa, en fait, le LoRaWAN, c'est le protocole qui se situe au-dessus du LoRa. Sur les protocoles, la release 17, pour la release 17, donc celle dont je viens de parler, la NRCAP, elle est sortie. Il y a peu d'infos pour l'instant. Ouais. Donc, je ne peux même pas dire si ça va être intéressant ou pas. En tout cas, il n'y a rien de chiffré, c'est-à-dire il y a des documents de normes, mais je ne peux pas dire ça consomme tant qui me permettrait d'avoir tant d'autonomie pour un device. Donc ça, c'est difficile en fait de pouvoir mettre la 5G dans un graphique range débit parce que j'ai rien qui fonctionne. Si vous regardez le catalogue 5G dans l'IoT, il n'y a que des choses en haut débit, mais il n'y a rien en REDCap. Donc, on peut pas tester. Et les îlots de 20, et puis les îlots, alors là, ce qui est ficelé maintenant, c'est les îlots de 26 gigas où on peut commencer à faire des tests. Mais ça vous concerne peut-être vous chez Volvo, ça contrôlera tous les systèmes de contrôle commande dans les grandes entreprises. Hein, je vois un peu les machines qui tournent là-bas. Mais on n'est pas dans ces systèmes-là quand on parle de LP1.
Mais des fois, l'argument qu'on nous oppose, c'est de dire, oui, mais la 5G, c'est la seule techno qui vous permettra la densité de device. Ouais. Comme si LoRa avait une limite sur le sujet. Et on y reprendra peut-être tout à l'heure. Effectivement, moi, j'ai un client la semaine dernière qui m'a dit on est déçu, y compris sur le Deep Indoor. Et il pense sans doute à tort, que ça vient parce qu'il y en a peut-être beaucoup autour déjà qui l'utilisent. Mmh. En gros, il met en cause la capacité de LoRa et de LoRaWAN à véhiculer beaucoup de capteurs. Et il attend ça pour faire. Alors, je suis assez d'accord, nous, on lui dit, attendez pas, enfin, on va attendre longtemps, hein, parce que la règle 17, on va toujours pas spécifier ou pas complètement. Mais voilà, est-ce qu'il y a une réalité derrière ça? Est-ce qu'on voit par quelle mécanique la 5G pourrait connecter plus de devices LPWAN que LoRa, et est-ce que LoRaWAN est vraiment mis en défaut là-dessus?
Alors, je ne peux pas répondre à cette question. Tout ce que je sais, c'est qu'en marketing, ils sont très forts et qu'il y a beaucoup, beaucoup de promesses, et que ce qu'on attendait déjà... Bon, la 5G qui est l'amélioration de la 4G, franchement, tout le monde s'en fout, c'est ce qu'on a sur le téléphone, ça va juste un peu plus vite. La 5G 26 gigas, on l'attend quelque part, il n'y a rien. Et ça fait déjà plusieurs années. J'ai fait un salon il y a 2 ans, on m'a dit ça sera début 2024, fin 2025. Mais entre début 2024 et fin 2025, il y a 2 ans. Donc en fait, ils ne savent même pas, eux, comment se positionner. Donc la 5G RedCap, faut pas compter dessus.
Est-ce
quoi.
Que ça vient du fait que pour le moment, il y a suffisamment de technologies qui sont matures?
Alors là, ça c'est un bon point. Mais le problème, c'est que ceux qui vendent la 5G, ce n'est pas ceux qui vendent le LoRa. Et on voit bien avec les différents mouvements qu'il y a eu dans le business du LoRaWAN, qui essaye de garder les réseaux, enfin les protocoles opérés. Hein, je voulais parler de Bouygues par exemple, qui a arrêté le LoRaWAN pour essayer de le remplacer par une techno opérée. Donc en fait, ils espèrent quand même, s'ils pouvaient aller plus vite sur la 5G pour pouvoir tuer le LoRa, ils pensent qu'ils se feraient ce petit plaisir.
Que ce soit quoi plus. Moins opéré du coup.
Alors non, par contre, là où tu as raison, c'est que les espérances, enfin les promesses du nombre de devices IoT qui avaient été espérés, on entend parler depuis 20 ans, ça va exploser, en fait ça n'a jamais vraiment explosé, et en fait la courbe elle est très lente, et donc en fait c'est sûr que ça a tué le Sigfox, hein, la preuve, c'est que Sigfox avait presque été un petit peu en avance par rapport à cette explosion, et donc là, les 5G, finalement, ils s'aperçoivent que ça va répondre, ça va proposer une solution, mais ils ne s'attendent pas non plus à ce que ça fasse une dynamique qu'on avait prévue il y a 15 ans.
Si on regarde d'un point de vue pas juste français, mais plus mondial, on voit le LTE-M et le NB-IoT qui se développent fortement. Mmh. Et c'est pour ça que c'est clairement que les opérateurs télécoms savent que le 5G bas débit arrivera très tard.
Mmh. Elle arrivera bien après, je crois.
C'est pour ça qu'ils continuent d'investir fortement en LTE-M et NB-IoT, sinon ils n'arriveront pas.
La 5G, en tout cas la 5G LPWAN, comme on l'entend, elle remplacera probablement ces deux technos. Ça, c'est la question, c'est quand. Oui, puis bon, et après, il y a toute la problématique de la couverture, enfin bon, qu'on a déjà dans toutes les technos, mais quand est-ce qu'on a de la 5G déjà, en téléphonie mobile, on n'a pas beaucoup de 5G, donc est-ce qu'on l'aura en IoT? Après, voilà. Toujours pareil, quand on a un réseau public et opéré, quand ça capte, c'est bien, quand ça capte pas, vous avez vos yeux pour pleurer, quoi. Soit vous avez 20 000 devices, vous les appelez, ils posent une antenne, mais sinon, ça marche pas.
Ouais, d'un point de vue couverture, on les voit déjà arriver, les opérateurs à nous dire que c'est couvert 5G partout, alors qu'en fait, c'est plein de fréquences différentes, et il y a beaucoup plus de complexité que ça, et il n'y aura pas les antennes des bits partout.
C'est sûr.
Dans la couverture indoor qui pose la question quand même.
Et puis la couverture indoor, on ne sait pas sur quelle fréquence. Si c'est sur des fréquences qui sont supérieures aux gigahertz, la couverture indoor, elle va être compliquée aussi. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Donc. Ce ne sera pas à 26 gigas, ça c'est sûr. À 26 gigas, ça fera 100 mètres et ça s'arrêtera. Alors, deux petits thèmes. Alors, je vous avais donné des petits devoirs à faire, j'espère que vous les avez faits. Mais si vous ne les avez pas faits, je vais un petit rappel de 30 secondes, ça va aller très vite. Et puis deux thèmes, donc. Un sur la sécurité, qui pose la question suivante, c'est est-ce que la sécurité doit être prise en main par le utilisateur final? Bon, la réponse est non, je vous la donne déjà, du coup vous pouvez partir, vous la connaissez déjà, mais pourquoi? Et en fait, la question c'est pas pour ça, je pose cette question parce que c'est quand on regarde comment c'est fait, on a l'impression qu'on lui laisse la main quand même, donc c'est pour ça que je pose cette question. Et puis une deuxième partie sur les couvertures, et on reprendra pas mal des points dont tu as cité tout à l'heure, qui j'espère répondront à une partie de tes interrogations, enfin des débats que tu as lancés. Donc on va commencer sur comment qu'est-ce que le LoRaWAN. Alors pour ceux qui n'ont pas fait leur devoir, 30 petites secondes pour rappeler ce que c'est un réseau LoRaWAN. Donc on a un device qui se situe à gauche, un device qui émet avec la modulation LoRa, et il émet à toutes les gateways qui sont dans sa zone de couverture. Une gateway, c'est un élément qui est bête, qui n'a absolument aucune intelligence et qui prend la donnée d'un device, ici un capteur de température, et qui le retransmet au network server auquel il est attaché. Donc, on passe d'un réseau qui est sans fil en modulation LoRa à un réseau IP classique. Le backhaul peut être en 4G, en Ethernet, en 5G, peut-être. Peu importe. Et on arrive sur un network server qui va faire la vérification de l'authentification du paquet. Si tout se passe bien, si ce paquet est authentifié, on arrive sur un application server qui va gérer le déchiffrement du paquet. C'est tout. Terminé. Ça, c'est un réseau LoRa. Point barre. J'ai fait le plink, on peut faire la même chose en downlink. Il n'y a rien d'autre. Mais comme on ne peut pas proposer ça directement à un client, eh bien, on rajoute associé et connecté directement au serveur LoRaWAN, on rajoute une plateforme IoT où on peut mettre des camemberts, des graphes, des histogrammes, comme on veut, avec une application mobile ou sur PC. Et ça, c'est ce que vous allez proposer à votre client. Très bien. Alors, petite démonstration. Un device, capteur de température, CO2, je ne sais plus ce qu'il fait, il fait un capteur de passage, je crois aussi, qui émet toutes les 20 minutes. Je pense qu'il a dû émettre depuis tout à l'heure. Une gateway que je vais positionner au centre en arrivant ici. Une connexion Internet qui est faite avec mon téléphone à l'arrache quand je suis arrivé. Et puis, un petit dashboard que j'ai fait à l'arrache aussi sur Node-RED. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? J'avais laissé à mon bureau le thermomètre sur le radiateur. On voit qu'à... je veux vérifier en ce moment quand est-ce qu'il coupe le chauffage, etc. Bref, c'est bon, mes petites mesures du moment. On voit qu'à 5h30, ils auront mis le gaz. Et puis là, je suis parti ce matin chez moi. Ouais. Je suis parti chez moi, etc. Là, il y a eu la période de train où il n'y a rien eu. Et puis là, bah, ça recapte depuis tout à l'heure. Dernier paquet reçu a été reçu par la gateway qui est là. Donc, c'est bien ce paquet qui est là. Et puis, il y a plein de choses. La lumière, là, on voit que c'est bien éclairé, etc. Il y a du CO2, etc. Donc là, on a toute la chaîne de transmission. Et on a ce qu'on pourrait présenter ici à un client. D'accord ? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire pour monter ce réseau LoRa ? Quatre choses, très simples. J'ai un device, je dois le configurer et l'enregistrer. L'enregistrer où ? Sur le network server qui se trouve ici. Donc, deux premières choses, je configure mon device, je l'enregistre. En fait, la configuration, souvent, elle est déjà faite parce que quand vous achetez un device, il est déjà configuré. Donc, il faut prendre cette configuration et la mettre dans votre network server. Et si jamais je n'ai pas de connectivité, je configure une gateway et je l'enregistre sur le network server. Cette gateway-là est enregistrée ici. Elle a le droit de parler au network server. Ça, c'est une chose qu'on fait une fois. Puis le device, on le fait autant de fois qu'on a de device. Donc finalement, la mise en place d'un réseau LoRaWAN, c'est quand même quelque chose qui est assez simple. Bien. Alors, l'enregistrement du device, ça me sert à quoi ? Ça me sert à pouvoir donner côté device, on arrive sur la partie sécurité, côté device et côté serveur, des clés. Et ces clés, elles servent à quoi ? Elles servent à deux choses. Eh bien, elles servent à ce que fait le network server, à donc authentifier le device, et elles servent à ce que fait l'application server, à déchiffrer le message. Et donc, les deux clés, elles sont présentes côté serveur, et il y a exactement les mêmes clés qui sont présentes côté device. Donc, c'est un chiffrement symétrique. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très simple, et là, je vous ai tout expliqué sur la sécurité, la base de la sécurité en LoRaWAN, c'est du chiffrement asymétrique, un pour l'authentification et un pour le chiffrement. Alors ça, c'est ce qui se passe quand le device est activé et actif. En réalité, quand vous achetez un device LoRaWAN, ces clés de session, elles sont générées après. Et elles sont générées grâce à quoi ? À une clé racine qu'on appelle la root key, qui s'appelle l'app key, la root key, et qui est aussi présente côté device et côté serveur. Donc les clés de session, elles arrivent après. Ce n'est pas vous qui les donnez. Mais ce que vous rentrez comme information pour pouvoir enregistrer votre device sur le serveur, c'est cette clé racine. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on discute de cette clé racine, justement. D'accord? Et donc, cette clé racine, quand le device va vivre, grâce à une connexion, donc qu'on appelle une activation, on appelle ça une procédure de join, eh bien, il va se connecter au serveur, le serveur va lui donner les clés de session, et ils vont donc avoir les clés de session qui seront réparties de part et d'autre. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette partie-là. La clé racine, comment est-ce qu'on fait pour la prendre depuis le device et la mettre ici? OK. Alors, quand vous achetez un device, vous prenez l'étiquette et vous lisez. Vous lisez Dev UI. OK. Vous lisez Join UI. OK. Et puis, vous prenez l'appkey qui normalement n'est pas sur le device et vous les rentrez. Ce qu'il y avait côté device, vous le mettez côté serveur. Vous cliquez sur Register Device et ça fonctionne. Ici, il y a quelque chose de très choquant. C'est que je vous ai tous fait voir ma clé racine qu'il y avait dans mon device. Alors, à ce sujet, il y a plusieurs réponses. Il y en a qui disent, ouais, bah, c'est bon, c'est un capteur de température. Au pire, on me vole les températures. Non. C'est pas à vous de décider si la donnée doit être sécurisée ou pas. Le protocole est sécurisé. Vous n'avez pas à donner la clé racine à quiconque. Elle doit être invisible de tout le monde. Première réponse. Deuxième réponse, c'est moi qui l'ai fait. C'est que je dis que avec cette clé racine, c'est pas que je peux lire ta température. C'est que tes 10 000 devices que tu as mis dans Lyon, je me pointe avec une gateway, je les éteins tous. Et là, tu vas passer un mauvais quart d'heure quand tu vas devoir appeler tous tes clients un à un et que tu vas devoir leur dire qu'il faut prendre rendez-vous parce qu'il faut changer le firmware à l'intérieur pour changer la clé racine. Je pense que ça tue une société. Donc, il ne s'agit pas de laisser la porte ouverte en disant « chez moi, il n'y a rien à voler ». Il s'agit de dire « je ferme la porte » parce qu'on peut certes rien voler, mais on peut tout casser à l'intérieur. Bien. Alors, dernière remarque, c'est que la troisième réponse qu'il faut faire, c'est que en réalité, les gens me disent oui, mais là, tu es en présentation, tu nous dis que tu fais l'enregistrement de device, mais bon, quand j'enregistre mon device, à juste titre, vous êtes derrière votre PC, vous n'êtes pas à la DIRA en train de faire une conférence. Regardons un petit peu comment ça se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, vous êtes l'utilisateur final, ici, vous avez acheté un device chez un manufacturer. J'ai représenté ici la gateway, j'ai représenté ici le network server chez lequel vous avez pris la prestation. Alors, quand vous avez acheté un device, on vous l'envoie. Et ce device, comme je vous l'ai dit, il est déjà préconfiguré avec. Comment est-ce que vous avez ici la rootkey que vous allez devoir mettre dans votre network server? Il ne faut pas que je touche l'écran, en fait, il est tactile. Fait, ça se passe exactement comme ça. Alors, ça se passe de différentes façons. On vous envoie un email, on vous la met en clair dans un email ultra sécurisé, heureusement que c'est un email ultra sécurisé, dans une pièce jointe ultra sécurisée avec les centaines de devices que vous avez achetés dans un fichier CSV. Ça, c'est la partie soft. Et puis, il y a des fois où je tombe de ma chaise. Les fois où je tombe de ma chaise, c'est j'ai mis toutes les clés sur tous les devices, comme ça, ce sera plus simple. Tu auras juste à faire un copier-coller. Donc, en gros, vous avez 100 baraques, elles ont toutes la même serrure. Et puis, ce qu'on voit souvent, malheureusement, c'est la clé, elle est écrite même sur le device. Ça veut dire que vous avez des maisons, elles ont toutes la même serrure. Et pour être sûr que vous puissiez rentrer, ils ont laissé la clé sur la serrure. C'est quelque chose qui ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Ça ne devrait pas exister. Tant qu'est-ce que peut faire l'utilisateur final? Là, rien. Il reçoit son CSV et il doit lui-même le sécuriser. Et c'est pour ça que la question que je posais tout à l'heure, on commence à en voir les prémices. Est-ce qu'on doit laisser le soin à l'utilisateur final de se soucier de ces clés racines?
Et une fois qu'on aurait fait la première enregistrement avec une clé qui aurait pu être visible, est-ce qu'il n'y a pas une procédure pour changer cette clé justement?
Non.
régénérer un certificat, un rootkey sur le device.
Non.
Ce n'est pas prévu.
Non.
La rootkey, elle est, au moment où je fabrique le capteur, elle est pour toute la vie du capteur.
Alors, là, on est déjà dans le très, très, très avancé. Si on... Il y aura possibilité. Il y a un groupe de travail, encore un groupe de travail. Il y a plein de groupes de travail, finalement. Il y a un groupe de travail à l'Aura Alliance, le Security Work Group. Et on est en train de monter du chiffrement asymétrique pour pouvoir refaire un secret partagé quand il y a eu... Clé publique privée, je vais y arriver, pour pouvoir refaire un secret partagé si jamais elle était corrompue. C'est un peu compliqué. Et puis, alors, jusqu'à maintenant, ce n'était pas trop possible parce que les puissances de calcul dans les devices n'étaient pas suffisantes. Maintenant, il y a des public key accelerators qui aident beaucoup. Donc, ça sera des choses. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas du tout l'actualité. Alors, une fois qu'on a reçu notre fichier et qu'on a notre rootkey, bah, on l'installe sur le network server, comme je l'ai fait dans le transparent précédent. Ça fonctionne très bien. Mon device, je vais le démarrer. Et donc, il va générer ce que j'ai dit comme tout à l'heure, des petites clés de session. Et donc, tout va très bien se passer. Et puis, un jour, mon opérateur, ça n'arrive jamais dans la vraie vie, heureusement, mais mon opérateur arrête le service. Donc, il dit, bah, moi, le LoRaWAN, fini. 2024, j'arrête. Bien. Alors, j'ai pris un autre cas un petit peu plus sympa que quelqu'un qui arrête. Je me dis que vous avez trouvé un opérateur qui est moins cher. Donc, ça veut dire que vous dites, bah, du jour au lendemain, je veux changer d'opérateur. Je veux passer d'un opérateur A à un opérateur B. Très bien. Comment ça se passe? Eh bien, à ce moment-là, vous farfouillez dans vos mails. Vous retrouvez le fichier CSV. Et vous dites, ouais, c'était celui-là. Au pire, il y en a toujours un qui l'a dans la poche parce qu'il l'avait mis sur une clé USB. Et donc, du coup, ce que vous faites la même procédure. Vous prenez cette clé racine et vous l'injectez dans le nouveau network server. Donc, vous l'aviez fait pour 10 000 devices. Vous le refaites pour 10 000 devices. Et à ce moment-là, les clés vont être à nouveau échangées. Alors, si je regarde un petit peu maintenant, si je fais un focus de ce qu'il y a ici et que je regarde qui a la clé racine, qui l'a ? Le device manufacturer, vous, dans votre fichier. Le network server A, et puis là, on vient d'en rajouter un suivant. Le network server B. C'est trop. On ne peut pas considérer que c'est un élément de sécurité fondamental pour la sécurité du réseau et l'avoir dans autant de lieux que je viens de le présenter. Et si je regarde un petit peu comment on fait pour, du point de vue du utilisateur final, faire l'enregistrement des devices, c'est une procédure qui est quand même fastidieuse, c'est-à-dire qu'il doit récupérer tous les identifiants, ce qu'on appelait les EUI et les clés, les injecter dans les network servers et ensuite faire attention à ce que son fichier soit bien sécurisé, donc avoir un système de sécurisation de son fichier CSV en interne, dans des bases de données en interne. C'est quelque chose qui est fastidieux et ça, c'est au bon vouloir, entre guillemets, de l'utilisateur final. Et si vous avez un prestataire, un intégrateur de votre solution qui ne le fait pas bien, bah, y a tous vos devices qui sont avec des clés dans la nature. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le device, quand il part du device manufacturer, est déjà pré-provisionné. Eh bien, c'est lui qui doit l'enregistrer vers une instance qu'on appelle un joint server. Donc, c'est une autre instance qui est indépendante de tous les network servers existants. Et c'est le device manufacturer qui va partager ses clés avec ce joint server. Alors, on verra peut-être après comment est-ce qu'il le fait. Et quand le device manufacturer vous envoie le device, il vous l'envoie déjà préconfiguré avec la rootkey à l'intérieur. Et vous ne la connaissez pas, vous ne la connaîtrez jamais. Ici, c'est mis dans un secure element. Ça veut dire que c'est un petit composant que l'on ne peut pas lire, qu'on ne peut que écrire. C'est-à-dire que vous pouvez changer la clé si vous voulez, mais vous ne pouvez pas la lire. Et ici, c'est mis dans des systèmes de HSM, donc Hardware Security Module, pareil, qu'on ne peut pas lire, qu'on ne peut que écrire. Si vous le lisez, alors là, il y a une espèce de flag, la clé qui dit « la clé a été violée, a été exposée ». Après, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez considérer qu'elle est valable toujours, mais en tout cas, elle a été exposée. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais un petit peu vite, mais il va y avoir une preuve d'appartenance du device sur le joint server, c'est-à-dire que l'utilisateur va aller sur le joint server, il va se connecter et il va dire « Je veux que tu te relies à ce network server A parce que ce device-là, c'est le mien. J'ai le certificat de propriété. » Et donc, quand il va y avoir une activation, l'activation, elle va aller sur le network server. Le network server va dire « Ah, je vais lui demander au joint server. » Le joint server va distribuer les clés au network server A et au network server B. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si… Alors, oui, petit point, qui a la route qui ? Donc, cette fois-ci, on n'a plus que deux instances, une et deux. Si jamais je change de network server, comment ça se passe ? Eh bien, à ce moment-là, je vais sur mon network server. Je dis, maintenant, mes devices, ils vont être opérés par un nouveau cœur de réseau. Vous étiez chez Activity, vous allez chez TTN, peu importe. Et donc, vous lui donnez le nouveau cœur de réseau auquel vous allez vous intégrer. La back-end interface entre les réseaux ici sont normalisées. Et donc, normalement, il devrait fonctionner. Donc, il va y avoir la génération de nouvelles clés de session entre le device et le network server B. Ça, c'est ce qui devrait se passer. Alors, pourquoi ça ne se passe pas comme ça en réalité ? Il y a d'autres. Enfin, on va venir à la fin pourquoi ça ne se fait pas, mais déjà, ça ne se passe pas bien non plus. Pourquoi ? Parce que si je prends l'exemple de Bouygues et d'Orange, quand Bouygues arrête son service ici, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, en fait ? Ils ont été gentils, ils leur ont dit bah, pas de souci, vous allez chez Orange et vous faites la première solution qu'on avait imaginée tout à l'heure. Vous dites bah, vous copiez vos clés, vous allez. Sauf que c'est bien beau de copier les clés, les routes qui ici, qu'elles soient là ou qu'elles soient là. Dans tous les cas, il faut que le device il fasse quoi ? Qu'il fasse un nouveau join. La nouvelle procédure de join du réseau pour pouvoir générer ces clés de session. Et le problème, c'est que les devices qui avaient été faits ici ne faisaient jamais, jamais de join. Ils le faisaient une fois au début de leur vie, mais ça a été très mal conçu pour les premières générations de devices. Ils ne l'en faisaient jamais. Et donc, pas de join, pas de nouvelle clé de session, pas de potentiel d'avoir un nouveau réseau à disposition. Et non. Et non.
Là, ils sont irrécupérables.
Irrécupérables. Donc, ça veut dire que les devices, de quand Bouygues a annoncé l'arrêt de son réseau, ça a posé énormément et ça pose encore énormément de soucis. Et finalement, la solution qui a été trouvée, mais ça a été travaillé avec Bouygues, c'était que Bouygues fournisse les clés de session qu'il avait enregistrées dans son network server au nouveau network server. Une espèce de solution un peu hybride. Voilà, les emails avec des clés, je pense, je ne veux même pas savoir. Mais en gros, voilà comment ça s'est passé. Voilà. Voilà comment ça s'est passé, principalement chez Bouygues, ça s'est passé exactement comme ça. Alors que normalement, deux choses, hein, comme tu l'as dit, le device doit faire des rejoins. Donc ça a été reformulé dans les nouvelles normes. Un device doit faire des rejoins. Alors c'est des technical recommendations, hein, ce n'est pas normalisé. Hein. C'est-à-dire qu'il devrait faire des rejoins. Should do. Ce n'est pas must. Mais s'il ne le fait pas, il peut être embêté. C'est-à-dire, un device manufacturer qui n'a pas fait un rejoin, ce n'est pas un critère d'achat, c'est une exclusion du device manufacturer direct. C'est-à-dire qu'il n'est même pas au fait de à quoi ça sert. Ça veut dire qu'il ne sait pas à quoi ça sert. Donc, c'est peut-être qu'il faut que la modulation LoRa. Ça se fait dans le microcontrôleur qui contient la stack LoRaWAN. Et ça peut être, c'est principalement du ST souvent, mais ça peut être n'importe quoi. N'importe quel microcontrôleur peut avoir une stack LoRaWAN. C'est cette stack LoRaWAN. Absolument pas. Donc, dans les technical recommendations, on dit maintenant, on fait des rejoins. Et si jamais le rejoin ne revient pas du network server, eh bien, c'est pas grave, on garde les anciennes clés. Mais si, et ça, on le fait plusieurs fois dans le mois. Donc maintenant, on préconise plutôt de faire ça tous les 10 jours environ. Parce que déjà, c'est aussi très bon que les clés de session, malgré que ce soit des chiffrements qui sont quand même assez poussés, c'est toujours très bon quand même que ce soit des clés qui soient renouvelées. Voilà. Bon, les attaques par force brute en LoRaWAN, c'est quand même compliqué à mettre en place, mais ça peut arriver. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette façon de procéder, la mise en place du réseau, elle devient beaucoup plus performante parce que l'utilisateur final, lui, il reçoit son device avec un QR code. Ce QR code, il contient que des données non sécurisées. Il flash. Dessus, il y a les EUI. Ça met directement les EUI dans son interface du cœur de réseau. Et ensuite, c'est tout. Avec les EUI, on reconnaît que c'est un device qui est déjà enregistré, en fait, qui sera déjà enregistré sur le join server et qui répondra au join. Alors, c'est qui le join server? Ça peut être n'importe qui. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est bien que ce soit n'importe qui? Je suis pas tout à fait pour. Moi, j'aurais milité pour qu'il y ait des join servers centralisés qui soient gérés par la LoRa Alliance. C'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? Ce serait super bien. Au moins, il y aurait pas de débat. Il y a un join, enfin, il y a plein d'instances de join server gérées par l'instance communautaire de la LoRa Alliance. Ce serait super. Ce que la LoRa Alliance, elle ne veut pas faire de technique. Elle ne veut pas être responsable d'une panne de réseau. Est-ce que ça serait grave qu'un join server tombe en panne? Franchement, à moins qu'il le laisse en panne pendant 3 jours, mais si ça redémarre en 10 minutes, ça n'est pas grave du tout. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le join server ne répondrait pas à des joins pendant 10 minutes. Mais il n'y a que les nouveaux devices ou que ceux qui rejoignent qui font des joins. Donc, tous les devices qui sont en train d'émettre, ils émettraient avec leur clé, ça poserait aucun problème, absolument aucun. Mais c'est comme ça, c'est un peu la philosophie de la LoRa Alliance, c'est je ne fais pas de technique. Donc, un point névralgique, mais bon, si on n'est pas capable de faire un join server solide, ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire un réseau LoRaWAN. Et encore une fois, ce n'est pas un point très critique. Si on est capable de solutionner le problème du join server en moins d'une demi-heure, pour moi, ça ne pose aucun souci. En tout cas, que ce soit piloté par une seule instance. C'est plutôt ça. C'est pas que ce soit sur un seul serveur, mais on pourrait dire avec le join. En fait, le join EUI, hein, qui est là, il nous permet de savoir quel est le join serveur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul serveur. Mais on pourrait dire que join EUI de temps à temps, c'est tel join serveur, de temps à temps, c'est le tel. On peut décentraliser assez facilement. Alors, en fait, on n'y a même pas réfléchi parce que de toute façon, la LoRa Alliance a mis un point d'honneur à dire non, on ne fera pas ça. Donc, qui a des join serveurs pour répondre? Donc, des join servers, il y en a 3 actuellement qui sont les plus connus. Il y en a un qui est poussé par Activity. Il y en a un qui est poussé par The Think Industry. Et il y en a un qui est poussé par Semtech. Et celui qui est le plus central, c'est celui qui est poussé par Semtech. Ah oui, juste, comment ça se passe maintenant pour faire justement l'enregistrement du device? Donc, tout à l'heure, j'avais ça à rentrer. Maintenant, je rentre ça, oui, mais en fait, quand je dois enregistrer mon device, je dis c'est un join server qui s'en occupera. Et donc, je n'ai pas à rentrer ça. Et donc, quand je flash ça, c'est automatique. Et ça, c'est fait automatiquement avec le join server. Donc maintenant, pourquoi est-ce que ce n'est pas fait? Je vais reprendre un petit peu les différentes choses. Alors, il faut que tout le monde se mette un petit peu au travail pour le faire, parce que c'est quelque chose qui est fait de façon communautaire. S'il n'y en a qu'un qui dit je fais un join server, mais qu'il n'y a aucun device manufacturer qui met les devices dessus, ça ne marchera pas. Alors pourquoi les device manufacturers ne veulent pas? À juste titre, ils disent moi je veux bien le faire, mais par contre, il faut que le join server il soit capable d'aller vers tous les network servers, autant Activity que TTI, que mon join server privé. Ça veut dire qu'il soit très interopérable. Ça, c'est le souhait du device manufacturer, à juste titre. C'est-à-dire que si ça n'est pas comme ça, ça ne marchera de toute façon jamais. Le network server opérateur, que ce soit Activity ou The Think Industry, si je prends les 2 exemples, je me suis mis à la place d'un device manufacturer. Je les ai appelés, je fais une réunion avec Activity, je leur dis, alors j'aimerais faire un essai d'avoir un device qui est sur le network server de TTI et en utilisant votre join server. Ah ouais, mais on ne veut pas trop que nos join servers fournissent des clés vers un device qui est enregistré vers TTI, il faudrait qu'on y réfléchisse. Bon, je dis ok, je vais voir TTI, je leur dis, je vais utiliser votre jeune serveur et j'aimerais que ça active un device qui est sur le network serveur d'Activity. Ah ouais, mais tu sais, on préférerait que ce soit notre jeune serveur qui fournisse les clés vers notre network serveur. En fait, ils ne veulent pas. Le business, pour l'instant, il est assez petit. Et en fait, la sécurité que les opérateurs proposent, ils la proposent, mais en la gardant aussi pour eux, pour leur propre network server. Le business, c'est le network server, ce n'est pas le joint server. Ceux qui ont fait la chose la plus ouverte, c'est Semtech. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont fourni un service de joint server, mais comme ils ont pas de, ils vendent pas de cœur de réseau, ils s'en foutent. Eux, ils vendent juste du device. Donc, ils se disent, plus je vends du device, mieux c'est. Plus c'est sécurisé, mieux c'est. Les gens vont se sentir bien. Et donc, le joint server de Semtech est capable de se connecter chez Activity, chez TTN, chez un serveur. Ils ont un menu déroulant qui est relativement grand. Mais par contre, il n'y a que les devices de ces Semtech. Donc, un device manufacturer qui fait sa propre architecture, il ne peut pas aller sur le joint server de Semtech, etc. Donc, ça veut dire que chaque device manufacturer devrait éventuellement faire son propre joint server. Ça devient quand même quelque chose de très complexe parce que ça, c'est des choses qu'ils n'aiment pas faire. Device manufacturer, c'est plutôt hard. Dès qu'on touche à la sécurité au cœur de réseau, ils veulent la déléguer à quelqu'un d'autre. Donc, voilà où on en est. OK. Deuxième sujet, donc sur l'interopérabilité. Mais ça va aller un tout petit peu plus vite de toute façon. Donc, la question que je pose, c'est est-ce qu'on doit partager le réseau ? Et on reviendra sur des notions de sécurité aussi. Alors, il faut comprendre qu'il y a à peu près 6 millions de gateways qui ont été vendus dans le monde. Si on répartit ces gateways sur toute la surface de la Terre, terrestre, tout le monde pourrait avoir de la couverture réseau, même dans le Sahara. Or, force est de constater que ce n'est pas le cas. Donc, en fait, il y a un enchevêtrement de réseaux. Donc, il y a des réseaux qui ont des devices. Là, c'est marqué device A, network A. Et d'autres devices, network B, device B, qui ont d'autres devices, d'autres réseaux. Quand vous êtes un device dans votre propre réseau, vous appelez votre réseau le home network. Donc, ça veut dire que c'est votre réseau d'appartenance. Évidemment, si vous êtes un device mobile ou si vous avez des ventes de devices dans des territoires qui ne sont pas connectés par vos gateways, eh bien, il se peut qu'un device A se retrouve dans un réseau d'un autre opérateur. Et donc, actuellement, quand c'est comme ça, le device ne capte plus. En fait, ce qui se passe, c'est que le device émet, ça arrive sur une gateway, donc vous avez dépensé de la batterie. La gateway, elle a dépensé un canal sur un spreading factor. Elle a envoyé ça à son network server. Le network server a testé l'authentification. Et là, elle a deux choix, puisque ça échoue. Soit elle dit, terminé, j'en entends plus parler. Elle s'est fait chier quand même à calculer le mic. Hein. Je veux pas. Ou alors, elle pourrait juste dire, bon, maintenant qu'il est là, j'ai plus qu'à le donner à mon voisin. Parce que je sais que ça appartient à quelqu'un. Et donc, je peux savoir à qui ça appartient et je peux le donner. Donc, en fait, on a fait 90% du trajet. Et les 10% qui restent, la plupart du temps, hein, eh ben, on jette, on fout à la poubelle, alors qu'on pourrait le fournir à quelqu'un. Et si jamais vous avez décidé de faire quelque chose de très louable, c'est-à-dire du roaming, ça veut dire que vous avez fait un roaming agreement avec un autre réseau. Et du coup, si vous êtes le réseau de distribution, on vous appelle le forwarding network. Forwarding network, ça veut dire que vous allez forwarder une donnée qui ne vous appartient pas. On reviendra sur la sécurité si vous avez des questions là-dessus après. On va voir comment ça fonctionne. Et évidemment, la même chose pourrait être, c'est généralement les roaming agreements vont dans les deux sens. Pas forcément, hein. Après ça peut être simplement je fournis mon réseau, mais je n'accepte pas que mes devices aillent sur d'autres réseaux, c'est tout à fait possible. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? On a vu juste un premier cas qui est de dire j'ai une couverture A, une couverture B, si jamais je mutualise les deux, j'ai A plus B. Très simple, hyper simple. Ça veut dire que j'étends la couverture d'un réseau. S'il n'y avait que ça, très franchement, ça serait déjà bien, mais on va voir qu'on peut aller quand même beaucoup plus loin avec l'itinérance quand on parle des LP1. En fait, quand on a des zones de couverture qui se chevauchent, comme sur le schéma que j'ai montré ici, vous pourriez dire qu'en faisant un accord d'itinérance avec le network B, vous gagnez juste ce qui n'était pas inclus dans A et B, c'est-à-dire la partie bleue qui se trouve ici. En réalité, c'est vrai en ce qui concerne votre couverture, mais vous avez réalisé ici, au milieu, une densification de votre réseau. Ça veut dire qu'il y a à la fois les gateways de A et de B qui se chevauchent. En fait, en LoRaWAN et dans plein de protocoles de l'IoT, le flux montant, il est assez facile à réaliser parce que vous avez pas mal, je ne veux pas dire de débit, mais pas mal de voies montantes. Par exemple, en LoRaWAN, vous avez 8 canaux, maintenant presque 16, avec autant de spreading factors dans chaque canal. C'est quand même quelque chose qui est plutôt... En tout cas, c'est suffisant pour pas mal de cas d'usage. Par contre, il y a une problématique, c'est le flux descendant. Pourquoi ? Parce que les devices, ils sont sujets à la réglementation européenne dans la bande des 868 mégas. Et la bande des 868 mégas, c'est européen, c'est pas le LoRaWAN qui le dit, c'est la réglementation européenne. Dans cette bande-là, elle dit, vous avez le droit seulement d'émettre pendant 1%. Ça veut dire que vous émettez 1, vous vous taisez pendant 99. Et les gateways, étant un device LoRaWAN, ont cette même règle. Elles peuvent émettre 1, mais elles ne doivent plus parler pendant 99. Mais une gateway, on voit bien qu'elle gère des milliers de devices. Ce n'est pas comme un capteur de température qui parle une fois toutes les deux heures. La gateway, elle, quand elle parle, eh ben, elle assèche complètement sa capacité de downlink avec quelques octets seulement. Alors souvent, on la fait travailler dans les canaux où il y a effectivement du 1% et on lui laisse un canal spécifique qu'on appelle la golden frequency. Et dans cette golden frequency, il y a ce qu'on appelle un duty cycle de 10%. Donc, elle a un peu plus de flux downlink que les autres. Pas tellement non plus. Alors, on voit bien que la densification qui se trouve ici, c'est-à-dire mettre plus de gateway, ça nous permet certes de mutualiser la couverture, mais aussi avoir une possibilité de downlink beaucoup plus importante. Si jamais un jour, je veux piloter mes radiateurs, je serai obligé de mettre des gateways supplémentaires pour qu'elles puissent, si jamais je devais les piloter de façon assez régulière, pour pouvoir faire le flux downlink des centaines de devices. C'est-à-dire que vous êtes capable de mettre des milliers de devices qui vont récupérer du flux uplink. Vous ne pourrez pas mettre des centaines de milliers de devices qui font du flux downlink. Les gateways seraient trop limités. Donc, cette densification, eh bien, elle peut être intéressante pour pouvoir avoir des flux downlink supplémentaires pour gérer votre réseau. Et puis, il y a un dernier point qui est directement lié au LP1, c'est que downlink capability, c'est que quand un device LoRaWAN émet, il parle avec une certaine force, je vous parle, et puis vous pourriez me dire, hey, Sylvain, c'est bon, tu es à 3 cm là, je suis piano, tu n'es pas obligé de hurler, tu nous parles de downlink depuis tout à l'heure, on t'entend. Et si jamais je parle plus doucement, eh bien, je ne vais pas embêter le groupe de travail qui se situe là-bas. Ça veut dire que je vais consommer moins d'énergie. Donc, s'il y a plus de gateway, je vais pouvoir parler à ma gateway plus doucement, moins embêter les autres et en plus économiser mon énergie. Donc, c'est bénéfique aussi pour les autres. Si vous faites de la densification avec un partenaire, tous les devices, ils vont faire vous. Et ils vont tous se retrancher autour de quelques gateways seulement. Ils vont arrêter d'hurler en envoyant des messages qui traversent 3 fois le réseau et qui est reçu par 10, 20, 30 gateways. Le LoRaWAN est capable de faire de la triangulation nativement. D'accord. Pour qu'il puisse le faire, il faut que les gateways aient un module hardware qui est un FPGA qui fasse du fine timestamp. C'est vraiment c'est mieux qu'un GPS. Enfin, voilà, faut qu'il soit vraiment synchronisé. En fait, il y a très très peu de gateways qui l'ont. Très très peu de gateways. Donc au final, personne ne peut faire de la géolocalisation native LoRaWAN. Alors, comment ça marche rapidement? Donc, tout à l'heure, je vous avais montré le schéma de réseau avec les session keys. Alors, en fait, il y a un élément en plus que ces session keys, ce qu'on appelle le device address. Donc, ça, c'est un peu comme une adresse IP. que vous avez dans les machines IP. Et c'est donc c'est une adresse sur 32 bits. Et en fait, cette adresse, elle est décomposée en deux. Un peu comme c'est l'adresse IP, on a la partie réseau et la partie device sur le réseau. Alors, ça s'appelle network address à droite. Comme ça. En gros, ici, pour faire simple, c'est ce qu'on appelle le NetID. D'accord ? Donc, Network Identifier, c'est une partie du device address qui vous est fournie. Voilà. Donc, ça vous est fourni en même temps que les clés de session. Donc, c'est régénéré aussi en même temps que les clés de session. Donc, comment ça se passe ? Si j'ai un device B qui est dans un network A, donc qui ne lui appartient pas, ça veut dire que le home network de ce device-là, il est ici, et le forwarding network, il est là. Donc, si normalement, il a un accord d'agreement, normalement, il doit pouvoir le transférer. Et donc, il va faire des uplinks, classiquement. Il ne sait pas, hein, c'est du passive roaming. Ça veut dire que le device, il n'aura jamais à sa connaissance le fait qu'il est sur un autre réseau. Il y aura dans le futur de l'active roaming. Pour l'instant, il n'y a rien qui est mis en place, même si c'est normalisé, personne ne le fait. Donc, on fait du uplink. Et à ce moment-là, le network server, lui, il fait comme il fait avec ses autres paquets. Il récupère, il voit le device address. Et avant même de l'authentifier, il se dit, est-ce que c'est un device address qui m'appartient, qui est dans ma plage, qui m'a été réservé? Si c'est dans sa plage, il va ensuite vérifier l'authentification avec les clés. Si c'est pas dans sa plage, il peut dire, ah, ben ça, c'est une plage avec qui j'ai passé un accord de roaming. Et donc, je vais lui transmettre. Donc, je vérifie le NetID et si jamais ça appartient à la plage d'un network avec lequel j'ai passé un accord, donc dans notre cas ici, le network B, ça appartient pas au network A, mais ça appartient au network B, eh bien, hop, je lui transmets. Tout simplement. Voilà. Alors, d'où viennent ces NetID? D'où viennent cette plage de réseau? La LoRa Alliance, encore une fois, c'est elle qui les attribue. Alors, vous avez deux plages que tout le monde peut utiliser. Donc, vous vous servez dedans, vous faites ce que vous voulez, c'est pour les réseaux privés. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire de roaming avec ces plages-là. Et nous, on a acheté une. Donc, The Thing Network en a, Activity, bien sûr, en ont. Nous, on a acheté une plage. On n'a pas acheté, on l'a demandé. Et donc, on sait que les devices, si vous voyez un jour des devices de ça à ça, vous pouvez dire, Sylvain, j'ai vu tes devices qui étaient là. Ça, c'est notre plage. Normalement, personne ne devrait l'utiliser, même si c'est pas sécurisé. Ça veut dire que s'il l'utilise, il l'utilise. Bon, ça veut dire qu'au pire, on m'enverra un paquet en me disant que c'est le mien, je vérifierai la sécurité et je verrai que c'est pas le mien. Voilà. C'est le seul problème qu'il pourrait y avoir. Mais ces plages-là, normalement, sont réservées. Alors, comment est-ce que vont faire maintenant pour gérer ces accords de roaming? Deux possibilités. Soit vous faites du peering agreement directement avec des prestataires. Vous allez voir chacun des clients. Bonjour, est-ce que tu veux faire du roaming avec moi? Oui. Bonjour, est-ce que tu veux faire du roaming avec moi? Non. Bonjour, est-ce que tu veux faire... Oui. Et à ce moment-là, vous faites des accords individuels avec chacun des réseaux. Ça peut être fastidieux. Commercialement, ça peut être compliqué aussi parce qu'il faut gérer plein de facturations, de machins, d'accords, de contrats avec un avocat, etc. Mais il y a aussi la possibilité de dire, eh bien, il y a des personnes qui font des hubs. Activity en propose un, TTI en propose un. Ils ont deux noms différents. Mais en gros, eux s'occupent de gérer les accords, de rassembler toutes les connexions. Et ensuite, si vous allez les voir, ils vous disent avec qui vous voulez faire du roaming. Voilà ce que j'ai dans mon classeur. Vous pouvez aller avec un tel, un tel, un tel. Maintenant, qui vous voulez? Alors, si vous voulez aller plus loin, sur le sujet du roaming, il y a un deuxième ouvrage que j'avais écrit avec mon équipe. Donc, là, il y a le premier ouvrage, c'est plutôt pour beginners. Ouais. Mais le deuxième ouvrage, alors le premier ouvrage est en français et en anglais. Le deuxième ouvrage, par contre, il est que en anglais, mais où on parle justement du joint server et du roaming.
Alors, il faut qu'on remercie Sylvain, parce qu'on est tellement bavard qu'on vous allez tous partir.
Je vais vous laisser.
Merci beaucoup, parce que...
Super intéressant, oui.
Super intéressant.
Alors, merci.
On n'a pas cette connaissance d'habitude. Et ça me plaisir dans l'idée qu'on fasse des formations et que... Ouais, si on en parle, il faut en parler bien, sinon il faut se taire. Et laisser ça.
Avec plaisir.
On s'amuse.
Je vous accueillerai avec plaisir en formation.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.